Nous allons, Verena et moi, faire une brève présentation de Cindy Bazin, chacune dans sa langue. Puis ensuite, nous ferons un tour des organisations par ordre alphabétique, chacune s'exprimant également dans sa langue. Ensuite, nous aurons un thème autour du coronavirus, le COVID-19, puis un thème sur la défense individuelle et collective, un thème sur le genre, l'égalité homme-femme, un thème sur les conventions collectives de travail, un thème sur les retraites et enfin un thème essentiel sur les droits syndicaux. Et ensuite, s'ouvrira la deuxième partie avec les questions des journalistes. Bien, quelques mots sur ce qu'est Cindy Bazin. Parce que Cindy Bazin, c'est une nouveauté absolue dans le paysage syndical suisse. Cette alliance des syndicats de base est quelque chose de nouveau. Je me permets de renvoyer les journalistes pour un développement plus grand à notre déclaration de principe que vous avez reçue avec la convocation à cette conférence de presse. Et je vais dire quelques éléments en résumé. Le syndicalisme de base est un syndicalisme en rupture avec le syndicalisme institutionnel de paix du travail. La paix du travail est un frein à la construction d'une défense efficace et pleine des droits des travailleuses et des travailleurs. Une défense efficace, efficiente des travailleuses et des travailleurs nécessite un syndicalisme de base, c'est-à-dire un syndicalisme autonome, totalement autonome, des centres de pouvoir économique et politique. Ça implique une indépendance par rapport aux institutions, notamment, et aux partis politiques. Ce syndicalisme de base repose sur l'activité militante, la mobilisation et la lutte. Cindy Bazin s'oppose à l'hégémonie de la finance, du profit et de la compétitivité, au saccage écologique et aux inégalités imposées aux femmes et à tout groupe social dominé. Oui, nous allons maintenant faire un tour des organisations qui vont chacune rapidement se présenter. Et nous commençons par Caril Dubry pour Arti.
Voilà. Alors, bonjour. Je vais déjà juste me représenter. Donc, Dubry Caril, je suis indépendant. Je suis dans le domaine de l'électricité et je suis le président de l'Association romande des travailleurs travailleuses de l'installation électrique. Voilà, donc au fait, notre association existe depuis une année bientôt. On était un petit comité d'une cinquantaine de personnes chez UNIA, avec les électriciens, qui s'appelait le Comité d'action des électriciens vaudois. Et on est très combatifs, on était une cinquantaine, vraiment très combatifs, et on s'est vite rendu compte que malheureusement, au sein d'UNIA, on n'a pas pu s'exprimer correctement, on va dire. On a été vite muselé et enchaîné. Donc, on a décidé l'année passée, au mois de mai, de quitter UNIA pour fin juin. Donc, on a quitté UNIA fin juin. On est remonté cette association qui est toute neuve. On a à peu près 250 membres pour le moment. Et on va gentiment s'étaler aussi un petit peu en essayant de développer l'art, principalement aussi l'art, parce que on s'est rendu compte qu'il n'y a pas que chez les électriciens que c'est un problème dans les métiers du bâtiment. Donc on va développer l'association du monde des travailleurs avec d'autres domaines. On a déjà des chauffeurs poids lourds, des chauffeurs de taxi, on a des membres dans le médical, le paramédical, dans les nettoyages, etc. Donc voilà, on est un peu tout frais et on s'est rendu compte l'année passée aussi que on n'était pas tout seul en Suisse à sortir des grandes institutions et des gros syndicats. Et on a découvert en premier Basis 21. Et ensuite, on s'est rendu compte aussi qu'il y en avait d'autres ailleurs. qu'on n'était pas tout seul, et voilà, on a décidé de se rencontrer et de créer cette alliance pour être beaucoup plus fort, pour être guillemets un peu partout, avoir beaucoup plus d'informations et surtout aussi pouvoir s'entraider entre les cantons, entre la Suisse allemande, la Suisse romande, la Suisse italienne, et d'acquérir aussi bien entendu plus de membres pour grandir et puis on va dire faire le péné à ces grands syndicats en Suisse, voilà à peu près ce qu'on fait. Et pour le moment chez nous on n'a pas de personnes employées, donc c'est que du bénévolat, ce n'est que des employés, des ouvriers, c'est vraiment la base qui bouge pour la base et avec la base.
Pour la FAO.
Oui, voilà, bonjour, je m'appelle Johnny Rumpf, je suis employé de commerce et membre de la FAO. Donc la FAO Berne, Freie ArbeiterInnen-Union, Union des travailleurs et travailleuses libres en français, est une organisation syndicale de base qui a été fondée en 1999. Elle est active dans le canton de Berne et se considère comme une alternative démocratique et combative aux syndicats fondés sur le partenariat, partenariat social. Excusez-moi. Nous considérons que tout grand progrès social ne peut être réalisé que par des luttes et des mobilisations sociales fortes. Nous pensons que les décisions doivent être prises par les personnes directement concernés et non des fonctionnaires syndicaux. Nous pratiquons la démocratie de base aussi parce que nous pensons que les modèles hiérarchiques ne sont pas compatibles à nos aspirations d'une société égalitaire et auto-organisée. La FAO est également un syndicat qui se revendique anticapitaliste, parce que nous estimons que ce sont les travailleurs et les travailleuses qui produisent tous les biens et fournissent tous les services, et que ceux-ci devraient être orientés vers le bien de la communauté et non vers le profit de quelques-uns. Et puis voilà, c'est tout naturellement que la FAO a rejoint ce processus de Cindy Baza pour s'unir avec les forces des autres organisations syndicales ici présentes avec qui nous partageons la pratique syndicale. Voilà, j'ai fini.
Je vais rapidement présenter la Fédération syndicale Sud, qui est une fédération vaudoise, qui a été fondée il y a 22 ans, alors qu'il y avait de grandes coupes budgétaires dans la fonction publique, notamment, et dans tout le secteur parapublic. Dans le Sud, on trouve plus d'une dizaine d'organisations du secteur public, mais aussi parapublic et des communes. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans l'éducation, dans la santé, mais aussi dans l'administration et dans des secteurs qui deviennent de plus en plus larges. Nous avons participé activement à créer Cindy Baza par un souci d'ouverture, de quitter les frontières cantonales et de nous unir à d'autres organisations de base qui sont aussi essentiellement dans le secteur privé. Comme ça, on sort de nos frontières cantonales, mais aussi de nos frontières d'être principalement dans le secteur public. Nous souhaitons consolider nos pratiques et nos actions, faire des actions communes qui seront d'autant plus faciles à réaliser ou moins difficiles quand on aura éliminé ce virus et qu'on pourra sortir dans la rue. Nous voulons un syndicaliste de base qui a la force première de faire comprendre à chacune et chacun les ressources qui sont les siennes, les ressources qui sont les nôtres, parce que nous sommes persuadés que le changement social, la transformation sociale que nous appelons de nos voeux, viendra de la base, d'hommes et de femmes libres.
C'est maintenant moi qui vais reprendre la parole pour traiter du thème du coronavirus. Donc, le Covid-19 n'est pas seulement une crise sanitaire, il est tout autant une crise économique et une crise sociale. C'est un moment historique où se joue l'avenir du monde du travail dans notre pays. Derrière les décisions officielles qu'il faut toujours décrypter soigneusement, se construit une politique de mobilisation et de contrôle de la force de travail. Pour les employeurs, publics, subventionnés ou privés, il s'agit de maintenir une maîtrise totale sur les conditions dans lesquelles s'effectue l'activité des travailleurs et des travailleuses. La pandémie est l'occasion d'approfondir vers des frontières nouvelles la subordination que le système politique, social et économique assigne aux travailleurs et travailleuses. Nous le savons bien, la subordination est au cœur du contrat de travail, du statut du salariat. Cette subordination se développe dans un droit du travail qui donne aux employeurs une position systématiquement dominante. Le droit de licencier de manière discrétionnaire en est la signification centrale. Subordination, rupture du contrat de travail, devoir de fidélité, obligation de maintenir le lien de confiance, prééminence permanente des intérêts de l'employeur sur ceux de l'employé. Cette situation générale, nous la retrouvons dans la manière dont les personnes sont mises ou remises au travail dans le temps de la pandémie. Ce sont les employeurs qui déterminent les conditions de la sécurité sanitaire. Ils en influencent de manière décisive les mesures légales, ils en gouvernent la mise en pratique. Les employeurs publics et privés ne veulent d'aucun contrôle efficace et public sur leur action à l'intérieur des entreprises et des institutions. Rappelons qu'un tel pouvoir signifie que des personnes peuvent être mises en danger, menacées d'infection, porteuses de contagion par le dispositif même de leurs conditions de travail. Non seulement nous ignorons toujours si les mesures officiellement ordonnées sont suffisantes et efficaces, mais de surcroît, il est impossible de savoir si elles sont bien appliquées partout. À vrai dire, ce que nous savons, c'est qu'elles ne sont pas ou partiellement, que le matériel manque, que les distances ne sont pas respectées. D'ores et déjà, avec les premières ouvertures du déconfinement, et cela va aller en s'accélérant, les éléments de construction de la sécurité sanitaire, notamment en matière de distance, sont mises à mal et menacées. Des questions aussi décisives que celles du masque sont systématiquement embrouillées parce que le matériel manque ou que le port ne permet pas la réalisation du travail. La politique de détection de l'infection et la pratique généralisée de tests efficaces ne sont tout simplement pas mises en place. Mais en plus, cette période de pandémie est aussi celle de la mise en cause des protections légales, d'un chômage croissant combiné avec la baisse des salaires. La sécurité sanitaire, la lutte pour l'emploi et pour le salaire, le maintien et la défense des droits, tout cela constitue un noyau unique. Dans le coronavirus, les employeurs publics et privés prétendent de disposer des salariés, des travailleurs et travailleuses à leur gré, leur imposer les risques qu'ils jugent adéquats à la poursuite de leur activité entrepreneuriale, en faire, en somme, un matériau docile de leurs intérêts et de leurs objectifs. Pour nous, ceci est radicalement inacceptable. La protection et la sécurité sanitaire du travail doivent l'emporter sur toute autre considération. C'est pourquoi nous mettons en avant trois éléments. Tout d'abord, aucune activité de travail ne peut avoir lieu sans que le matériel de protection et les conditions de la distanciation sociale et des autres mesures de protection ne soient garanties. À l'inverse, si ces protections ne sont pas assurées, l'activité doit être interrompue. Deuxièmement, les conditions de sécurité sanitaire doivent être systématiquement vérifiées et contrôlées par des instances extérieures aux entreprises, par des institutions publiques et en premier lieu par les inspections du travail. Mais nous savons bien que les institutions publiques n'interviennent efficacement, n'agissent pas sans qu'elles y soient contraintes par la mobilisation et la prise de parole des travailleurs et des travailleuses. Dire ce qui se passe, briser l'invisibilité et le pouvoir discrétionnaire dans les entreprises, c'est la condition sine qua non pour que la puissance publique agisse. Enfin, et troisièmement, il n'y a pas de sécurité sanitaire sans une politique systématique et généralisée de tests. Sur ce point aussi, il faut se mobiliser individuellement et collectivement pour que les dépistages soient mis sur pied et opérés. Le Conseil fédéral en est venu à reconnaître, avec des exceptions et des points de fuite pour les employeurs, que les personnes à risque devaient travailler à domicile ou être libérées de l'obligation de travailler au cas où les possibilités d'activité à la maison ne pourraient être concrétisées. Ce droit, déjà très fragile et ambigu, n'est pas systématiquement appliqué. Nous pensons qu'il faut en dénoncer systématiquement les manquements. Enfin, la lutte contre la pandémie sur le terrain du travail, c'est aussi un combat pour faire appliquer et élargir les droits autour des activités de proche aidant et de la garde d'enfants. La question de la réouverture des écoles dans des conditions confuses met en question la sécurité de nos enfants, celle des familles et de la société en général. C'est l'autre face de cette volonté d'user discrétionnairement des gens, de les assigner au risque et à l'insécurité. Nous défendons face à cela le droit à la sécurité sanitaire et à la vie, non seulement dans les lieux de travail, mais en général dans la vie sociale, tout ce qui fait communication entre l'activité au travail, notre vie à tous et toutes.
J'y vais sur l'égalité. Bien, moi j'aborde le troisième thème que nous avons choisi de traiter ce matin, le thème du genre, de l'égalité homme-femme. L'égalité, en fait, présuppose toujours une juste répartition, que ce soit des richesses, des savoirs, du temps, des tâches, que les tâches soient agréables ou moins agréables, voire carrément désagréables. Mais comme nous le savons, la réalité, c'est bien autre chose. C'est souvent pour les femmes la double journée, des salaires plus bas, des retraites insuffisantes, voire carrément des retraites de misère si on n'a que le minimum AVS, par exemple. C'est la charge mentale, c'est des soins aux proches, et c'est la plupart du temps, même pour des personnes qui ont un emploi avec un salaire correct, des métiers fortement connotés comme féminisés, avec tout le cortège de dénigrement qui peut les accompagner. En période de COVID-19, certains de ces métiers, très féminisés, sont remis en avant, ils deviennent les protagonistes et nous ne laisserons pas passer la chance qui sera à la sortie de cette période et déjà à partir de maintenant de se battre pour la revalorisation de toutes ces fonctions féminisées qui sont les vendeuses, les vendeurs, les caissières, les caissiers, les personnes qui sont aussi sur le front bientôt de l'enseignement, qui sont dans les hôpitaux, dans les soins. Les femmes sont frappés par tous les grands mots du travail salarié. Ça, c'est une évidence. C'est en cela que la lutte pour les droits des femmes est un formidable levier de la lutte pour les droits de toutes et de tous. Je dirais même que c'est le levier, parce que sans les femmes, ça ne fait que 50%. Et si on veut une majorité, il faut les femmes. Les mots du travail salarié sont amplifiés par les inégalités, celles qui frappent les femmes, celles qui frappent des personnes en raison de leur sexe, de leur genre. On peut penser au travail temporaire, aux horaires coupés, aux contrats précaires, aux secteurs où les conventions collectives de travail sont les plus faibles. Je pense à l'hôtellerie-restauration, au nettoyage, à l'infâme convention collective sur le travail temporaire. Quand il existe un syndicat de base dans un secteur professionnel, ce que nous voyons quotidiennement sur le terrain, c'est que les femmes s'y impliquent. Donc, femmes et syndicalisme de base, c'est un couple qui marche. D'où la nécessité pour nous d'étendre l'action de base et le syndicalisme de base le droit à l'information, à l'auto-organisation, à l'autodétermination. Le syndicalisme de base peut et doit permettre aux femmes de cesser d'être des objets, de cesser d'être des exécutantes pour devenir des sujets, des actrices. Parce que quand les femmes se lèvent, c'est le peuple qui avance tout entier.
L'article voulait parler un peu aussi de ces conventions collectives de travail. Alors, c'est sûr que d'avoir des conventions collectives de travail, c'est très bien. Bien sûr, à condition qu'elles contiennent des droits nettement supérieurs aux conditions du marché, aux droits du travail existants, ce qui n'est malheureusement pas souvent le cas. Mais aussi, le problème, c'est que les syndicats domestiqués de l'USF, par exemple, signent de plus en plus des CCT bidons qui prévoient des conditions inférieures à la loi sur le travail ou au code des obligations. Et voilà, ces conventions collectives, elles sont là un peu pour plus ou moins rassurer les gens, rassurer les travailleurs. Puis en fait, on se rend compte qu'on est très souvent en dessous de la loi sur le travail ou du code des obligations. Le problème aussi avec ces nouvelles conventions que nous on veut défendre aussi, c'est que les travailleurs ils sont pas consultés, les travailleurs travailleuses ne sont pas du tout consultés. Et ils ne participent jamais aux négociations. Nous, on a eu l'exemple pour le domaine de l'électricité. Nous avons changé de convention collective, elle a été renouvelée au 1er janvier 2020. J'ai participé personnellement à des réunions d'accompagnement aux négociations. On s'est vite rendu compte, malheureusement, on était encore à cette période-là chez Unia, on s'est vite rendu compte qu'on n'avait pas grand-chose à dire, la mobilisation était vraiment très faible, que les gros syndicats suisses ne faisaient pas grand-chose pour que cette mobilisation soit beaucoup plus importante. On a participé à ces négociations pour le canton de Vaud, on était deux représentants. Pour la Suisse alémanique, il y avait très peu, la Suisse italienne, quasiment pas, c'était vraiment très compliqué. Et on se rend compte que voilà, il y a pas de consultation et que si nous, on n'avait pas fait la démarche de vouloir participer à ces négociations, il n'y a absolument rien qui aurait été fait. Et cette nouvelle convention, elle aurait été à les pâquerettes au minimum de la loi sur le travail, voire en dessous de tout ça, quoi. Et puis, c'est aussi le problème, elles servent un peu de pompe à fric pour les partenaires sociaux via les contributions professionnelles qui finissent en grande partie dans leur caisse. Ces contributions professionnelles sont retirées sur le salaire des travailleurs et travailleuses. Par exemple, dans la branche de l'électricité, c'est encore 21 francs par mois. On se rend compte aussi que les travailleurs et travailleuses ne savent même pas ou ne prennent pas la peine de demander où va cet argent. On a certaines CCT, ça peut aller jusqu'à 1% du salaire. Alors par rapport à 21 francs, 1% du salaire sur un salaire de 5 000, on a plus de 40 francs par mois. Voilà, qui vont dans leur caisse. Cette contribution professionnelle, elle devrait uniquement servir au contrôle de l'application des accords et à la formation continue. On a une très petite partie qui part, par exemple, dans la formation, la formation pour les apprentis, la formation continue. Les partenaires, ils se tiennent par la barbichette et ils font tout pour prolonger ce système qui est très, très lucratif. Et puis ça, bah, évidemment, ça neutralise toute volonté de lutte du côté syndical. Les syndicats domestiqués sont aussi devenus des plus grands, on va dire, suppôts de la paix du travail. Voilà, parce qu'évidemment, ils s'entendent entre eux. Et le graal de tout ça, c'est la déclaration de force obligatoire du SECO, qui étant la CCT et les contributions à toute la branche. Donc, évidemment, c'est un pactole assuré. On a aussi remarqué une société qui est sortie pour les temporaires. C'est un des meilleurs exemples. Là, justement, on a 0,7% du salaire qui est prélevé sur à peu près 400 000 personnes avec une société qui est vraiment au rabais, où il y a des conditions assez pourries. Par exemple, le délai de congé durant les 3 premiers mois du temporaire, c'est 2 jours. Donc voilà, 2 jours, c'est vraiment, c'est pas gérable. 2 jours, ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut avec ces personnes-là. Comme je l'ai entendu avant, voilà, c'est pas dire que c'est de l'esclavage, mais on prend, on jette. Quand on a besoin, on prend. Quand on n'a plus besoin, on jette. Et il n'y a aucune sécurité là derrière. Et ils ont aussi, évidemment, des conditions pourries, genre, ben, voilà, ce délai de congé. Et puis avec des salaires, un salaire minimum, 3 550 francs bruts. Sur une convention collective, ça fait quand même peur de voir ça et d'entendre ça. Voilà, il n'y a pas de débat autour de ces CCT. Les temporaires n'ont pas été beaucoup consultés. Voilà, c'est des dizaines de millions de comptes qui sont gagnés par les signataires de ces conventions collectives. Donc évidemment, il y a des conventions qui sont très bonnes, qui dépassent la loi sur le travail ou le code des obligations. Nous, aussi au sein de Cindy Bazar, voilà, c'est une des priorités d'améliorer ces conventions collectives et puis de pouvoir faire participer au maximum les travailleurs et les travailleuses de chaque branche pour qu'ils aient, voilà, qu'ils aient leur mot à dire, en passant bien entendu par des organisations comme nous. Et puis voilà, de pouvoir défendre son métier. Comme moi, j'ai la chance d'avoir deux métiers dans deux branches différentes. Voilà, j'ai mon métier me fait vivre. On va sortir et on va essayer de faire changer les choses, quoi. Et nous, on a vu encore, donc on a participé à la votation fin de l'année passée pour la nouvelle convention collective de l'installation électrique avec un paquet ficelé. On a eu un paquet ficelé malgré toutes les négociations, un paquet ficelé. Il était, on nous l'a dit d'ailleurs, le vice-président de l'Union nous l'a dit devant nous a dit, voilà, messieurs, un paquet ficelé, c'est à prendre ou à laisser. Donc, même de se dire qu'on se battait au sein d'une institution comme Unia, on n'a pas pu faire grand-chose. Parce qu'une fois qu'on a voté pour ce paquet ficelé, où il y a eu des petits plus, mais franchement, c'est des miettes, c'est ça aussi. Chaque année, chaque fois qu'il y a une nouvelle société, c'est des miettes qu'on obtient, des vraies miettes. Et en plus de tout ça, quand la convention collective est sortie sur Internet, qu'on a pu la consulter, on s'est rendu compte aussi que beaucoup de choses, par rapport à ce qui avait été voté par des travailleurs et travailleuses, beaucoup de choses et beaucoup d'articles ont changé et n'ont pas changé dans le bon sens. Et des articles qu'on n'avait même pas discutés, qu'on n'avait même pas négociés avec le patronat. Donc voilà, c'est quand même hallucinant, et on se rend compte que dans beaucoup de métiers différents, on a le même problème de ces conventions collectives qui sont signées entre le patronat, entre des gros syndicats, où on se fait une bonne bouffe, on signe ça sur le coin de la table, et puis tout le monde est content. On a eu une réaction assez impressionnante de M. Aldo Ferrari, vice-président d'UNIA, quand on a accepté cette convention collective. Il avait le sourire qui lui faisait trois fois le tour de la tête. Tout ça pourquoi? Parce qu'on est passé de 21 francs de solidarité, donc de contribution professionnelle, on est passé de 21 francs à 0,7%. Donc c'est sûr que, ben voilà, ça a contenté tout le monde. Donc voilà, pour résumer, il faut vraiment qu'on se batte sur ces conventions collectives, qu'on fasse ce qu'on aux travailleurs et travailleuses, c'est un peu leur seul règlement où ils sont, où leur métier est, on va dire, dépouillé, ou c'est le seul moyen aussi de mettre la pression et puis d'obtenir des meilleures choses. Donc ça va être un de nos combats principaux, parce qu'on aimerait bien entendu associer la base, comme je l'ai dit, donc associer les travailleurs et les travailleuses pour toutes ces étapes de société, suivant les corps de métier qui changent chaque année ou qui changent tous les 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vraiment essayer de faire comprendre à la base aux travailleurs et travailleuses qu'on peut faire changer les choses. Et puis que voilà, ces CCT soient synonymes de véritables nouveaux droits, pas juste des miettes de temps en temps et puis faire croire aux gens qu'ils sont tranquilles parce qu'il y a une convention collective. Voilà, merci beaucoup.
Une intervention de la sixième composante de Cindy Baza, qui est le syndicat autonome des postiers, le SAP, qui nous a communiqué un texte qu'il souhaite que nous lisions. Et c'est Aristide Pedraza, qui est à mes côtés de Sud, qui va le faire maintenant, puisque ce texte concerne également la thématique des conventions collectives de travail.
Voilà, je résume le propos des camarades du syndicat autonome des postiers qui nous disent que malgré l'existence de conventions collectives à la poste, les salaires baissent et les salaires baissent significativement. Il ne suffit pas d'avoir une convention collective pour améliorer les conditions d'emploi dans une entreprise. Il faut aussi que les syndicats se battent et ait la volonté de changer les choses et d'accumuler des succès. Ce n'est pas le cas à la Poste pour les 2 syndicats institutionnels. Chaque année, ces 2 syndicats signent des accords salariaux. Régulièrement, ils signent aussi des plans sociaux et des changements de la CCT qui détériorent les anciennes conditions. 2 exemples. En 2015, ces syndicats partenaires sociaux ont validé le fait que les collaborateurs du réseau postal, plus de 6 000 personnes, aient le plafond salarial de 10% plus bas que les autres employés de la Poste. Autre élément, depuis plus de 10 ans, plusieurs fonctions à la Poste ont été dévaluées et rétrogradées. Nous voyons aussi à la Poste une politique systématique de licenciement des travailleurs et des travailleuses qui ont de l'ancienneté et de l'expérience pour être remplacés par des nouvelles et des nouveaux qui touchent des salaires d'engagement évidemment beaucoup plus bas. Les plans sociaux contiennent toujours des péjorations. Dans le dernier à la Poste, l'âge de protection contre la perte d'emploi passe de 55 à 58 ans. On perd également le droit à la réintégration en cas de licenciement abusif pour un délégué syndical, par exemple. Une CCT mal défendue ne fait que bâillonner les syndicats signataires et sert de caution à toutes les dégradations voulues par l'employeur. Enfin, à la Poste comme ailleurs, il y a le problème des contributions de solidarité. Malgré des CCT qui se dégradent et qu'on laisse se dégrader, on prend aux travailleurs syndiqués ou non syndiqués une contribution qui fournit plus de 2 millions de francs par année qui est ensuite reversé aux partenaires sociaux. Cet argent est devenu un élément indispensable du revenu de leur fonctionnement. En d'autres termes, si vous ne signez pas la CCT, vous ne touchez plus rien. 2 millions, ça atténue les velléités combatives. Pour paraphraser un conseiller fédéral, les CCT et les contributions de solidarité sont un oreiller de paresse pour les syndicats concertatifs et le syndicat autonome des postiers veut autre chose pour les travailleurs et les travailleuses de la Poste et pour l'action du syndicat. Sud va présenter le point des retraites. J'ai essayé de le faire le plus rapidement possible. Nous luttons contre toutes les attaques qui visent les éléments du régime actuel de retraite, contre les attaques du deuxième pilier, essentiellement portées aujourd'hui par le projet du Conseil fédéral et avant ce projet, par l'accord entre l'USS et l'Union des associations patronales pour augmenter les cotisations et baisser les prestations. La deuxième attaque est l'attaque contre l'AVS. Nous n'allons pas la décrire ici, mais rappelons une de ces mesures phares, totalement inacceptables, que nous combattrons jusqu'au bout, c'est la retraite pour les femmes à 65 ans, qui, si elle passait, ouvrirait le prolongement du temps de travail sur la carrière et la retraite à 67 ans pour toutes et tous, voire même une retraite sans date déterminée, totalement flexible. Enfin, il y a également les prestations complémentaires. Les prestations complémentaires constituent un élément indispensable pour faire face à la pauvreté des retraites. Elles sont attaquées aujourd'hui. Il n'est pas question de laisser passer des politiques de coupe et d'austérité dans les prestations complémentaires. Nous défendons un salaire continué, un salaire qui poursuit le salaire versé durant le temps de travail, disons effectif. La première étape de ce salaire continué est une rente générale de retraite avec un minimum garanti par personne, nous insistons par personne, de 4 000 francs par mois et couvrant 80% du salaire sur la base d'un traitement maximum de 160 000 francs par an, avec la mobilisation des trois éléments du régime de retraite, AVS, deuxième pilier et prestations complémentaires, pour pouvoir concrétiser ces revenus, le revenu de 80% du salaire avec le 4 000 francs minimum. La rente générale que nous proposons intègre aussi le travail éducatif de soins et d'accompagnement réalisé hors de l'emploi salarié classique. Nous demandons également qu'il y ait l'indexation de la rente générale, c'est-à-dire de tous les apports pour la retraite, et une 13e rente pour chacune et chacun. Ces objectifs se déclinent à partir de situations diverses de lutte et de mobilisation pour les retraites. Par exemple, les luttes dans les caisses de pension publiques. Nous demandons aujourd'hui qu'il y ait suspension de la gestion des rendements telle qu'elle est faite en temps ordinaire et que les caisses de retraite publiques dans leurs résultats soient garantis par l'État pour toute la période de pandémie. Ces mesures peuvent s'étendre et trouver un financement également dans le secteur privé. Nous voulons également souligner l'importance d'introduire le principe de pénibilité dans l'établissement de l'âge de la retraite. Nous partons comme référence de ce qui a été conquis par les camarades du bâtiment, retraite à 60 ans. Par extension, nous demandons qu'en un premier temps, la retraite à 60 ans soit étendue à toutes les travailleuses et tous les travailleurs qui ont des conditions de pénibilité équivalentes à celles du bâtiment. Nous parlons par exemple, mais ce n'est pas une liste exhaustive, des soins à domicile, du nettoyage, des cantonniers. Il faut commencer par là, par reconnaître cette pénibilité pour avancer dans une retraite à 60 ans pour toutes et tous aussi rapidement que possible. Enfin, Nous voulons également souligner que ce qui est central, ce sont les luttes, les capacités de résistance pour conditionner le développement du régime de retraite. Donc, la conquête de la rente générale de retraite. Ce n'est pas par une seule initiative, un référendum, une opération parlementaire miraculeuse que nous allons y arriver. C'est par la construction systématique d'un rapport de force qui s'ancre dans ce que les travailleuses et les travailleurs et les retraités, qu'ils soient actifs ou qu'ils soient retraités, arrivent à faire et arrivent à déterminer comme pression sur les gens qui détiennent le pouvoir sur cette manne absolument incroyable qui, dans le deuxième pilier, comprend aujourd'hui 1200 milliards et dont dépend notre vie dans la dernière étape de nos existences quand nous sortons de l'emploi capitaliste.
Chaque organisation va lire un passage sur la question des droits syndicaux, en commençant par l'article.
Donc, les droits syndicaux sont en Suisse limités, fragiles, plus formels que réels. Leur transformation en droit effectif, pratiqué, leur renforcement est un combat décisif pour le mouvement des travailleurs travailleuses et pour les syndicats. Il s'agit là d'une lutte démocratique, car la liberté syndicale relève des droits fondamentaux. Le droit des travailleurs travailleuses à défendre leurs intérêts, à s'organiser, à s'exprimer et à réagir, à améliorer leurs conditions et à changer la société pour se faire tout cela à la racine. C'est pour les travailleurs et travailleuses les droits de chacun, de chacune, le droit de prendre la parole, de se défendre individuellement et collectivement.
Les droits syndicaux ont pour base les droits de chaque travailleur et travailleuse et des collectifs qu'elles et ils forment d'être informés, d'être garantis dans leur personnalité, leur intégrité et leur santé, de pouvoir agir, s'exprimer et se mobiliser. Donc de s'organiser et de négocier avec les employeurs et les pouvoirs publics, en un mot, avec les personnes et les institutions qui décident de leur sort. Le syndicat n'est pas un intermédiaire entre les salariés mécontents et leurs employeurs, mais une organisation que les travailleurs et travailleuses créent pour gagner en droit et en place dans la société. Les syndicats n'ont pas de rente de situation qui leur serait garantie. La liberté syndicale au sens de choisir son syndicat ou de décider de fonder un est quelque chose de fondamental.
En Suisse, les droits syndicaux sont largement formels, même s'ils sont de manière très limitée reconnus. Mais le vrai pouvoir est aux mains des employeurs qui peuvent licencier comme ils l'entendent, moyennant cas échéant de très modestes indemnités. Le pouvoir de licencier va avec le pouvoir de sanctionner, le pouvoir d'avertir. À la racine de tout ce pouvoir discrétionnaire, il y a la subordination du travailleur, de la travailleuse à l'égard de l'employeur comme base même du contrat de travail. De fait, la conception dominante veut que l'employé se donne à l'employeur, soit capté totalement par lui et soit enfermé dans un statut d'exécutante ou d'exécutant, quelle que soit en dernière instance sa qualification ou son expérience. Cette fragilité, cette précarité, cette soumission exigée définissent la condition fondamentale du monde du travail. Cette infériorité explique largement pourquoi les droits des travailleuses et des travailleurs et la liberté syndicale sont en Suisse la plupart du temps purement formels. L'employeur décide, organise, commande, fait le récit des relations de travail, construit la discipline. Les travailleuses et les travailleurs sont enfermés dans ce cadre limité et risquent, dès qu'ils ou elles en franchissent les limites, d'être tout bonnement exclus de l'entreprise, virés, liquidés. Cette précarité matérielle induit donc également une précarité subjective.
Le devoir de fidélité, l'obligation de maintenir le lien de confiance et de subir sa rupture si elle est décrétée par l'employeur, le droit patronal de rompre les rapports de travail et de pouvoir le faire même avec effet immédiat, tous ces éléments de soumission ne sont limités que très partiellement par le contre-pouvoir que donne l'organisation des travailleurs et des travailleuses. Tout le dispositif légal vise à paralyser ou du moins à multiplier les obstacles à l'action des travailleuses et des travailleurs. Le rachitique droit de grève en Suisse illustre cette situation à merveille. Il en est de même des conventions collectives défavorables aux intérêts les plus immédiats au nom desquels les travailleuses et les travailleurs doivent payer des contributions sans le moindre droit de décision ou de contrôle sur elles.
Voilà, nous avons maintenant terminé cette partie de présentation. Vous avez encore la possibilité de poser des questions si vous le souhaitez.
Voilà, alors ma question est la suivante. Pensez-vous qu'il faille, bien entendu, mener de front les luttes sociales et les luttes pour les travailleuses et les travailleurs, mais également de continuer de questionner le syndicalisme sous sa forme actuelle, le syndicalisme comme pratique, et ce nouveau syndicalisme de base que vous faites surgir au travers de cette fédération Cindy Baza?
C'est clair que ce type de syndicalisme, un syndicalisme de base que nous revendiquons, il va de pair avec les objectifs que nous voulons atteindre. Donc nous allons continuer parce que c'est la base sur laquelle nous nous fédérons, nous nous allions, puisque nous sommes une alliance et nous tenons à ce terme, nous l'avons longuement discuté. Cette alliance des syndicats de base est là pour fondement justement de mettre en cause le syndicalisme institutionnel qui, selon nous, en Suisse, ne donne pas aux travailleuses et aux travailleurs et à la société en général les fruits qu'elle peut attendre d'une lutte. Donc oui, nous allons continuer et nous n'allons pas mollir, en tout cas, on n'en a pas l'intention.
Karine Dubry pour l'Arty. Oui, nous, on s'est vraiment rendu compte que dans les grandes institutions syndicales suisses, on avait vraiment les mains liées, la bouche bâillonnée. Et moi qui fais, je fais du syndicalisme depuis 4 ans. Avant, je m'y intéressais pas du tout. Et quand j'ai commencé à m'intéresser, on s'est vite frappé à des murs et on s'est rendu compte que voilà, c'était je suis désolé, je parle souvent d'UNIA parce que voilà, c'est la seule référence que j'avais. On s'est rendu compte que c'était l'argent qui prenait sur les droits, sur les droits des travailleuses et travailleurs. Et on s'est rendu compte aussi que avec la base, c'est la base qui doit décider. C'est pas quelqu'un d'autre qui doit décider pour les travailleurs et les travailleuses, pour leur métier, pour leur branche. C'est quand même hallucinant. Donc c'est vrai qu'il faut peut-être, je vais pas dire changer le syndicalisme, mais il faut le remettre à sa base aussi. Le syndicalisme doit revenir à un syndicalisme de base et on doit repartir sur les vraies bases, les réelles bases du syndicalisme. Comme on peut le, voilà, vous allez sur Wikipédia, vous regardez syndicalisme. Voilà, c'est revenir vraiment à la base. Et arrêter de jouer avec l'argent, avec l'argent de ces travailleurs et de ces travailleuses, jouer avec leur santé, avec leur vie, comme ça s'est passé pendant ce Covid-19. On a essayé de faire fermer des chantiers, etc. C'est scandaleux ce qui s'est passé, de pousser les gars pour des salaires de misère, les pousser à aller travailler dans des conditions d'hygiène qui ne pouvaient pas du tout être respectées. On le sait tous sur les chantiers, c'est pas possible. Voilà, c'est tout ça. Et puis, il faut vraiment qu'on revienne à la base. Voilà, la base pour la base avec la base. C'est à mon avis, c'est fondamental. Et voilà, c'est ce que au sein de l'Arty aussi, on ressent au fond de nous, de se dire maintenant, il y en a marre, qu'on décide pour nous, et puis qu'il faut bouger. Alors, c'est sûr que c'est pas facile parce que on n'est pas un grand pays de syndicalisme. Donc, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de convaincre, ce n'est pas évident. Mais déjà, d'informer les gens, informer qu'il y a autre chose que UNIA, qu'il y a autre chose que SINA, qu'il y a autre chose, qu'il y a une autre façon de le faire. Voilà, c'est ça surtout. Une autre façon de le faire et de le faire le mieux possible et depuis la base.
Le 11 mai, normalement, il y a un peu la cacophonie à Berne, mais a priori, il y a en tout cas une partie du déconfinement, si j'ai bien compris. C'est également la date prévue pour le versement de la première tranche des dividendes du Crédit Suisse aux actionnaires. Je sais que, par exemple, la coalition grève du 15 mai, parmi ses revendications, eh bien, elle comporte la réquisition des dividendes et puis un impôt exceptionnel qui pourrait, pourquoi pas, devenir pas exceptionnel sur ces énormes entités. Y a-t-il une position officielle de votre coalition ?
Aristide ?
Oui. Alors, cette orientation de saisir les produits des actionnaires et de promouvoir une fiscalité qui frappe les grandes fortunes est une orientation européenne de tout le syndicalisme de base. Et évidemment, nous avons une très grande confiance avec cette proposition-là, je veux dire, saisir le produit de l'activité actionnariale du Crédit Suisse, introduire de nouveaux impôts, des impôts forts contre les grandes fortunes et les gros revenus, et également utiliser pour la politique sociale l'intégralité des bénéfices de la Banque nationale qui nous appartiennent aussi afin de pouvoir financer les politiques de développement du service public, notamment de la santé qui a été particulièrement frappée et évidemment les politiques sociales et d'augmentation salariale dont ce pays a besoin.
Aujourd'hui, où nous nous retrouvons, la partie genevoise est absente. Il y a bien entendu d'autres régions qui ne sont pas représentées. Alors, est-ce que vous avez également des alliances en vue ? Si c'est le cas, à quelles conditions ? Et puis, serait-ce des alliances de circonstances ? Ou est-ce que vous êtes toujours à la recherche d'implications et d'alliances durables ?
Alors, je peux peut-être répondre à ça. Dans le processus de construction de l'alliance des syndicats de base Cindy Baza, on a différentes organisations qui sont à l'heure actuelle observatrices. Pour ce qui est de Genève, il y a par exemple la DETRA qui suit nos travaux. Mais après, voilà, il faut encore comprendre que jusqu'à il y a pas très longtemps, on était encore en train de rédiger notre déclaration de principe. Donc, il faut voir par la suite si des organisations comme ADETRA, qui est l'Association de défense des travailleurs et travailleuses, se reconnaît dans cette déclaration de principe. Ensuite, pour ce qui est de l'alliance de Cindy Baza, bien entendu, ce que nous recherchons, c'est de réunir des organisations de base qui se reconnaissent dans nos pratiques syndicales, qui se reconnaissent dans notre déclaration de principe, et avec ces éventuelles organisations, effectivement, de travailler sur le long terme. Après, j'imagine qu'il pourrait être possible, mais comme dans n'importe quelle campagne, d'avoir des alliés de circonstances, mais en toute indépendance. Je veux dire, nous, pour nous, l'indépendance est primordiale. Et si on travaille avec quelqu'un, on l'a toujours fait, on le fera toujours en indépendance. Et puis voilà, je ne sais pas si ça répond à cette question. S'il y a d'autres personnes qui veulent encore ajouter quelque chose en réponse à cette question.
Alors, je crois que la parole va être pour remercier les personnes qui ont tenu le coup jusqu'au bout de cette conférence de presse qui a duré plus longtemps que ce que nous avions imaginé. Ça arrive souvent comme ça. Saluer les journalistes. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont RHT, qui bossent pas moins qu'avant, mais ils sont RHT. Donc, on a aussi peut-être un mot pour eux et elles. Et puis, je ne peux pas conclure en français sans dire longue vie à Cindy Baza.
Se battre contre Covid-19, c'est se battre contre le capitalisme, se battre pour la justice sociale et pour la justice climatique. www.libradio.org, on change tout. Maintenant, Murder Machine.